Ils sont malades.
C'est le seul diagnostic.
Vraiment malades.
Donc j'ai connu le ver solitaire, mais aussi le ver solidaire.
Chaque lundi, ils se regroupent dans leur quartier général à Roubaix. Et ils enregistrent une émission de radio pour propager leurs bonnes paroles et venir en aide aux gens qui sont comme eux. Dans le milieu, on les appelle...
Les tatouages.
Vous allez maintenant entendre leur dernière émission.
On avait dit sérieux, les filles,
là.
Alors bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à l'émission Les Entonnoirs. Donc aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour discuter à propos d'un thème. Ce thème, nous en avons débattu pendant la fameuse soirée Tik et Tok. Alors, je vais vous dévoiler ce thème, c'est « Quelle éthique pour une attention collective à la personne dans le cadre de vie et santé mentale ?» Alors, nous avons eu Pauline Renter, qui est chargée d'études à la Fédération de recherche en santé mentale pour le volet recherche de l'expérimentation chez soi d'abord. Nous avons eu aussi l'honneur de recevoir Laurent Elgozy, qui est président de l'association Élus Santé Publique et Territoire. Et nous avons eu aussi Monsieur Éric Corbeau, qui a des fonctions au Conseil régional.
Alors, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à l'Institut Pasteur, dans un bureau de l'équipe Un Chez Soi D'abord. Alors, on vous expliquera rapidement ce qu'est un Chez Soi D'abord. En fait, c'est donc Pauline Renter, chargée d'études à la Fédération de recherche en santé mentale de la région Nord-Pas-de-Calais, qui pourra nous expliquer un peu ce projet et qu'est-ce qu'on y fait. Ensuite, nous avons en notre présence, et on le remercie, qui vient de Paris, qui est Laurent Elgozy, qui est président de l'association Élu Santé Publique et Territoire, et donc il pourra nous parler un peu de cette soirée qui est intitulée « Quelle éthique pour une attention collective à la personne ?» Question importante, mais en même temps peut-être difficile. Voilà, donc première question, on va la poser à Pauline Renter, qui est chargée d'études, qui va nous parler un peu de cette soirée et pourquoi justement cette idée de s'orienter vers cette question importante qui est l'attention collective à la personne. De quelle personne parle-t-on? Et qu'est-ce que vous faites d'abord? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites?
Donc moi, je m'appelle Pauline Renter. Je travaille donc à la Fédération de recherche en santé mentale du Nord-Pas-de-Calais depuis un peu plus d'un an. Dans le cadre d'un programme qui s'appelle Un chez soi d'abord, et donc qui n'est pas spécialement le sujet de la soirée de l'espace éthique de la fédération ce soir. Alors pourquoi d'abord l'espace éthique, c'est un espace qui existe depuis quelques années et qui a été imaginé par la fédération pour essayer de d'ouvrir les débats éthiques autour de la santé mentale. Alors il y a différents thèmes à chaque fois, et cette année le petit groupe qui avait préparé cette soirée avait suggéré de connecter le thème de la soirée à le thème cette année de la semaine d'information en santé mentale, qui est ville et santé mentale, en essayant de chercher ce qui pouvait être de l'ordre du questionnement éthique dans ce thème-là. Parce que quand on parle de ville et santé mentale, c'est très très large. On peut parler de la ville comme en termes d'urbain, on peut parler de la ville comme municipalité, donc on peut parler des élus, on peut parler de la vie collective et des habitants, on peut parler de beaucoup de choses quand on parle de ville. Donc on s'est dit, il faut qu'on puisse resserrer un petit peu le sujet pour pas partir de manière trop large. Et en fait, le thème de la question éthique a guidé nos premières réflexions pour préparer cette soirée vers en fait toutes les situations où dans la ville prise au sens large, un certain nombre d'acteurs, que ce soit des associations, que ce soit des habitants, que ce soit des professionnels, que ce soit des élus, se trouvent confrontés à une question éthique vis-à-vis de la situation individuelle d'une personne qui a un trouble psychique. Alors, pourquoi c'est venu ? Parce que depuis quelques années, on se rend compte qu'en fait, les élus, mais aussi les professionnels, et c'était d'abord les élus et les professionnels, et ensuite les associations d'usagers se sont engouffrées dans la brèche, ont monté des espaces plus ou moins restreints de concertation, pour essayer de faire une sorte de diagnostic, un état des lieux de ce qui manquait à chaque fois dans une ville, soit en termes de prévention, voilà, pour éviter la souffrance psychosociale, voire les troubles de la santé mentale, soit pour mieux organiser les soins, soit, on va dire, en plus en aval, essayer de trouver des moyens que les personnes qui ont des troubles psychiques ne soient pas discriminées, ne soient pas stigmatisées, et donc au titre de leur statut de citoyen et d'habitant puissent accéder à tous les services comme n'importe qui, que ce soit dans la culture, que ce soit dans le monde de l'emploi, que ce soit pour l'accès au logement. Voilà. Donc voilà, ça c'était les questions qu'on s'est posées.
Je voulais savoir, enfin là, je me fais l'avocat du diable, mais s'il n'y avait pas d'éthique pour une attention collective à la personne, qu'est-ce qui se passerait alors ?
Ben, il y aurait que des procédures. Et quand il y aurait une situation très compliquée, on appliquerait une procédure qui a été élaborée soit par le monde médical, soit uniquement par des gestionnaires de l'ordre public, soit par des gestionnaires du monde du logement. Et du coup, on ne se poserait jamais la question de la complexité en fait des situations, puisque les personnes ne sont jamais que porteurs d'une souffrance psychique ou d'un trouble psychique. Ils sont aussi habitants, ils sont aussi voisins, ils sont aussi parents, ils sont aussi travailleurs, etc. Et du coup, s'il n'y avait pas d'éthique, on appliquerait tout le temps la même règle à tout le monde. Or, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas et ce serait très peu respectueux des personnes.
Pensez-vous qu'on donne les moyens à notre société de d'être un peu plus attentif aux citoyens, aux personnes qui ont des problèmes psychiques? Pensez-vous qu'on donne les moyens financiers, par exemple
Je pense que c'est assez variable d'un endroit à l'autre, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'on va dire que globalement, les moyens ils sont là, mais ils sont très inégalement répartis, soit au niveau géographique d'un endroit à l'autre, soit entre, par exemple, différents services. C'est-à-dire que on va avoir un endroit où il y a plus de moyens sur les soins, mais pas tellement sur la vie culturelle et associative. Donc c'est plutôt une question de répartition équitable des moyens plutôt que de volume global, il me semble.
Peut-être des questions que vous posez tard, Monsieur Laurent Elgozy pourrait peut-être aussi répondre. Mais avant cela, je pense qu'on va faire une question-réponse comme ça entre vous deux. Peut-être on va donner la parole à Monsieur Laurent Elgozy qui se présente. Et ensuite, je pense que vous pourriez répondre comme ça à nos questions.
Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis effectivement Laurent Elgozy, je suis chirurgien hospitalier, voilà, à Nanterre, et élu à Nanterre depuis 1989, donc depuis longtemps, en charge des politiques de santé, de prévention, de personnes handicapées, voilà, et actuellement chargé des relations avec l'université, ce qui est tout à fait autre chose. Et, en tant qu'élu local, on est responsable. La responsabilité, ça oblige à se poser la question de savoir pourquoi on a choisi d'être responsable, de qui on est responsable, qu'est-ce qu'on va faire avec cette responsabilité-là, tant plus qu'on est responsable de la totalité de tous les habitants qui sont sur dans la ville, sur le territoire dont on est élu. Alors évidemment, dans la population, il y a des gens qui vont bien, qui ont besoin de rien, qui se débrouillent tout seuls, et puis il y a tout un tas de gens, quelle qu'en soit la raison, qui ont besoin d'une attention particulière, d'un soin particulier, soin au sens large, pas simplement un soin thérapeutique, psychiatrique ou autre, mais bien d'une prise en considération des difficultés qui sont les leurs. Sinon, ces gens-là sont exclus. Voilà. Et ils se retrouvent soit à la rue, soit renvoyés plus loin, soit et donc une des responsabilités des élus, et c'est pour ça que ça pose des questions, c'est comment on fait en sorte, ou on essaye de faire en sorte, pour que tout le monde, chacun, puisse trouver sa place comme citoyen dans la ville dont on est responsable. Et comme le disait Pauline, il n'y a pas de... Chaque personne est différente, chaque situation est différente, chaque moment est différent, et même dans la vie d'une personne, chaque moment est différent. Et si on prend pas en considération ces différences, différences des personnes, différences de moments, différences de lieux, on peut pas porter véritablement attention aux autres dans ce qu'ils ont précisément de spécifique, ou de dans les difficultés qui sont les leurs à un moment donné, ou les besoins qui sont les leurs. Ça, c'est le travail, c'est pour moi en tout cas, ça fait partie du travail des élus, faire en sorte que chacun, quelles que soient ses difficultés, quelles que soient ses différences, puisse se sentir citoyen dans la ville.
J'ai une question. Enfin, c'est plutôt une réponse que je voudrais donner. Moi, je suis actuellement secrétaire adjoint de mon association. C'est un groupe d'entraide mutuelle. Peut-être que vous avez entendu parler des fameux GEM.
Oui.
Donc, ils travaillent en rapport avec la psychiatrie, avec les centres de soins, avec les hôpitaux psychiatriques. Et je voulais savoir ne pensez-vous pas que c'est déjà une définition d'une attention collective de la société?
Moi, je pense que les GEM, c'est une très bonne initiative, et que c'est effectivement une façon pour les usagers de la psychiatrie d'être reconnus par la ville et dans la ville, de pouvoir plus facilement accéder aux services. Pauline évoquait la question de la culture, la question du sport, la question des expositions. Si dans un GEM vous avez des artistes, il faut qu'ils puissent exposer dans les lieux municipaux, donc les lieux communs, les lieux qui appartiennent à tout le monde, de la même façon que n'importe quel autre artiste, par exemple. C'est aussi des outils pour faire le lien entre la psychiatrie d'une part, donc le soin, et puis tous les autres services de la ville, le logement, les services sociaux. Donc c'est véritablement un outil important, et d'autant plus important qu'il est géré par des usagers eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est eux qui savent de quoi ils ont besoin, de quoi ils ont envie, comment ils ont envie de s'organiser, et c'est pas toujours ni aux psychiatres, ni aux travailleurs sociaux, ni aux élus de décider à leur place. Donc c'est incontestablement un outil de citoyenneté dans le sens où je le disais tout à l'heure. Pour revenir à une question que vous avez posée à Pauline sur est-ce que la société donne les moyens, la réponse est sûrement non, en tout cas pas suffisamment. Et en même temps, je suis convaincu que c'est pas seulement une question de moyens. Ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, de raconter tout à l'heure, c'est que finalement, si on s'organise autrement, c'est-à-dire que si les gens, les psychiatres, les travailleurs sociaux, les bailleurs sociaux, les services municipaux, la police, la protection judiciaire de la jeunesse, bref, si tout le monde accepte de travailler ensemble, au lieu de travailler de manière parallèle, verticale, étanche. À ce moment-là, je pense que sans moyens supplémentaires, on peut certainement arriver à faire mieux.
Et ne pensez-vous pas qu'il y a un problème de comment rendre plus citoyens des personnes qui ont des problèmes psychiques? C'est là une grande question. Comment les rendre plus citoyens, plus impliqués dans notre société? On voit qu'il y a, par exemple, il y a des personnes qui sont dans la rue, elles vont être repérées facilement, et puis elles vont accéder à des centres de soins, ou elles vont repérer un centre de soins, et puis elles vont y accéder. Et puis il y a toutes celles qui n'auront pas accès au centre de soins, parce qu'elles sont isolées, elles sont complètement isolées. Et que peut faire un élu, comme vous par exemple, ou n'importe quel élu, pour remédier à ça?
Moi, je pense encore une fois que ça dépend de l'ensemble de la collectivité. C'est-à-dire que la prise en charge des personnes fragiles, quelle que soit la fragilité, la prise en charge des personnes fragiles ne peut pas relever de simplement du soin, ou simplement des travailleurs sociaux, ou simplement de... Mais relève de l'ensemble de la collectivité, d'une attention de tous à chacun. Ça veut dire que effectivement, pour les personnes qui n'accèdent pas spontanément aux soins, il faut mettre en place des dispositifs pour aller les repérer, pour les accompagner vers le soin, pour les prendre par la main, pour que les besoins dont ils ne sont pas forcément conscients ou dont, pour des raisons diverses, ils n'ont pas envie, auxquels ils n'ont pas envie d'accéder, pour que ces moyens leur soient véritablement accessible. L'accès, c'est pas simplement qu'il y ait un CMP dans un coin et que la porte soit ouverte. Non, c'est que des gens puissent venir vous dire c'est là que tu peux aller, c'est là que tu peux être aidé, c'est là qu'on peut t'accompagner pour effectivement être à la fois soigné, ce qui est une première chose, mais également être rétabli dans les meilleures conditions possibles et donc participer à ce moment-là à la vie de la cité comme tout le monde.
Et ça fait combien de temps vous faites être élu? Ici, comme personne âgée ou sont pas âgée.
Moi, je suis élu depuis 89, donc ça fait 23 ans, 24 ans. Les personnes âgées font aussi partie des personnes fragiles qu'il faut de la même façon accompagner et qui ont là encore des besoins spécifiques. Et encore une fois, mais ça rejoint ce que disait Pauline, il peut pas y avoir un traitement unique, identique pour tout le monde. Lorsqu'on met en place un traitement identique pour tout le monde, il profite aux plus favorisés. Lorsqu'on met, par exemple, si on met en place une politique de prévention dans le domaine de la santé, on s'aperçoit que ceux qui en profitent le plus sont les gens les plus favorisés, c'est-à-dire ceux qui, effectivement, ont accès à la lecture, ont accès à un réseau de médecins, ont accès à la connaissance, ceux-là, ils en profitent plus. Et du coup, les dispositifs, encore une fois, identiques pour tout le monde, renforcent les inégalités. Et ceux qui sont, pour une raison ou pour une autre, plus fragiles, plus en difficulté, ou souffrant de maladies psychiques, ceux-là sont encore plus exclus. D'où l'importance de mettre en place des dispositifs spécifiques pour aider les personnes qui en ont le plus besoin.
Moi, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez des entonnoirs ?
Alors, je connais pas les entonnoirs, je connais le symbole de l'entonnoir, bien entendu. Donc, j'ai découvert les entonnoirs par ce que m'en a dit Pauline Rinter tout à l'heure. Je le connais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avoir la possibilité d'une radio véritablement auto-virée comme on le voit là, c'est un outil de citoyenneté, c'est une façon d'être dans la ville, c'est une façon de parler aux autres, c'est une façon d'être entendu par les autres et donc de lutter contre tout ce qui est la stigmatisation, le rejet, l'exclusion, de faire comprendre aussi aux gens que on peut être malade à un moment et bien à un autre, qu'on peut aussi travailler lorsqu'on est malade ou lorsqu'on a été malade, encore une fois, on a une vraie place, encore une fois, comme tout le monde, je répète toujours les mêmes mots, mais parce que c'est ça qui me paraît important, au milieu des autres.
Et pourquoi que les gens vont pas bien?
Si j'avais la réponse, je serais prix Nobel, ou je serais très riche, ou j'ai pas la réponse. Ce que je sais par contre, c'est que toutes choses étant égales par ailleurs, il y a un certain nombre de facteurs qui aggravent la souffrance des gens, qui aggravent les difficultés. Pour prendre un exemple caricatural, lorsqu'on est malade et qu'on n'a pas de logement, évidemment, on va plus mal. Lorsqu'on est malade et qu'on n'a pas la possibilité d'accéder aux soins pour des raisons financières, géographiques, culturelles, de langue ou autres, évidemment, on va plus mal. Et donc, une des responsabilités, je reviens à ce terme, des élus, c'est de faire en sorte que on agisse également sur ces facteurs sociaux au sens large qui aggravent la souffrance, qui aggravent les difficultés et qui excluent encore plus. Dans un travail qu'on avait fait il y a plus de 10 ans avec un psychiatre de Lyon, Jean Furtos, on avait fait un travail et le petit livre qu'on avait sorti à la fin de ce travail s'appelait « Les élus face à la souffrance psychosociale ». Et moi, je tiens à ce terme de souffrance psychosociale parce qu'on peut être malade, mais si on est bien pris en charge, si on a autour de soi un réseau familial, un réseau d'amis, un réseau social et des moyens, évidemment, on va mieux que si on n'a pas tout ça. Donc, il y a bien des facteurs sociaux qui aggravent le trouble psychique.
Les entonnoirs. Alors moi, je voulais abonder dans votre sens, parce que vous, il était important, il y a quelques années, de voir sur le terrain des éducateurs de rue. Donc des gens qui vont à la rencontre des personnes qui sont en souffrance. Et donc là, je pense qu'il y a un lien entre les personnes isolées et, en quelque sorte, et la société. Savez-vous ce que sont devenus ces éducateurs de rue? Est-ce que ça existe encore, vous qui êtes dans le soin en général?
Non, mais bien sûr. Alors, les éducateurs de rue s'intéressent plus, en tout cas pour ce que j'en sais dans la banlieue parisienne que je connais, s'intéressent plus ou sont plus chargés de s'occuper des gamins, des jeunes en difficulté, des jeunes en détresse, des jeunes à la rue, des jeunes en rupture de rupture scolaire ou autre, plus que de s'occuper véritablement des gens qui ont un trouble psychique. Par contre, le développement des équipes mobiles de psychiatrie ou des équipes psychiatrie précarité sont des outils, des nouvelles organisations de la psychiatrie publique qui permettent d'aller au-devant des gens qui, pour des raisons diverses, ne sont pas pris en charge, ne sont pas suivis ou sont en rupture de soins et donc sont à la rue en particulier. Donc ça existe, c'est des dispositifs qui sont à la fois efficaces et insuffisants, mais encore une fois, quand bien même il y aurait une équipe une psychiatrie précarité ou une équipe mobile, le soin ne suffit pas. Vous évoquiez les facteurs sociaux, il faut donc que l'ensemble de la collectivité, les psychiatres, les travailleurs sociaux, les élus, les services municipaux, les associations, les GEM, que l'ensemble de tous ces acteurs arrivent à se mettre ensemble, à la fois pour dire la maladie psychique, c'est pas une fatalité, c'est pas une tare, mais que au contraire, les malades doivent être pris en charge par tout le monde.
Une question, c'est vous connaissez l'Italie, Trieste, la fermeture des...
Bien sûr.
Voilà. Là, c'est une politique donnée. On va pas le rappeler là. C'est effectivement fermeture de lits à un moment donné, enfin des hôpitaux. Donc, il y a une attention de chacun, de toute la population. Est-ce que vous pensez que ça serait possible en France, mais peut-être pas fermer les hôpitaux psy, pas à ce point-là. Est-ce qu'on pourrait arriver à un état similaire où chacun serait responsable de l'autre?
C'est moi j'en suis convaincu. J'ai convaincu que aujourd'hui il y a trop de personnes qui sont dans des lits de psychiatrie et que il serait beaucoup mieux, et on prouve, enfin quand on le fait ça marche, qu'il serait beaucoup mieux s'ils étaient dans la ville. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des dispositifs d'accompagnement social, accompagnement de soins à domicile, et encore une fois que tous les services de la ville, je dis la ville, pas seulement les services municipaux, mais tous les services qui sont offerts aux habitants de la ville puissent leur être accessibles. Mais l'expérience prouve, c'est même plus la peine de le dire, que des malades atteints de troubles psychiques, lorsqu'ils sont bien suivis, bien accompagnés dans des logements adéquats et qu'on essaye de lutter contre l'isolement, qu'on essaye de leur reconnaître, d'entendre leurs paroles, de reconnaître ce qu'ils disent, c'est évident qu'ils vont mieux. Ce qui ne veut pas dire que à un moment donné, pour une raison X ou Y, d'aggravation, de difficultés supplémentaires, d'exacerbation de la maladie, il ne faudra pas à un moment donné qu'il y ait un temps d'hospitalisation. Mais on voit bien qu'il y a des services de psychiatrie, des secteurs de psychiatrie qui, pour autant d'habitants, 80 ou 90 000, ont 10 lits d'hospitalisation, et d'autres qui en ont 70. Donc on voit bien qu'on peut faire autrement. Mais, encore une fois, ce qui a été fait à Trieste, c'est pas simplement fermer les hôpitaux psychiatriques qui sont quand même des lieux d'enfermement, mais c'est véritablement mettre en place tous les dispositifs nécessaires dans la cité, dans la ville, ce qui, donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, implique, oblige les élus locaux à y participer.
Dernière question, c'est une question plus personnelle. Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu à vous engager comme ça sur ces questions
Je vais vous dire, moi je suis élu socialiste, j'ai pas de patients dans mon entourage proche, j'ai pas de malades dans mon entourage proche. Pas plus que d'autres, quoi. Donc c'est pas une question je ne suis pas un parent de malade, tant mieux. Mais voilà, je suis de gauche. Je considère que l'égalité des droits est un principe absolu de la République. C'est écrit sur toutes les écoles, sur toutes les mairies, c'est écrit partout. Que la citoyenneté, la pleine citoyenneté, c'est-à-dire le fait de pouvoir participer à tout ce que la société propose, c'est une obligation qui nous est faite à nous élus. Que la discrimination, la stigmatisation est contraire aux valeurs de la République. Voilà, je suis un républicain de gauche et ça me paraît suffisant pour m'engager à faire en sorte que tout le monde, y compris les malades atteints de troubles psychiques, puisse participer à la société.
Merci d'avoir répondu à toutes ces questions.
Merci à vous.
Et peut-être je vais prolonger juste un peu parce qu'on n'a pas présenté le chez-soi d'abord. Peut-être que Pauline Ranter va nous présenter rapidement ce que c'est le chez-soi d'abord.
Alors le chez-soi d'abord, en France, c'est un programme qui a débuté il y a 18 mois maintenant dans 4 sites, à Marseille, à Paris, à Toulouse et dans la métropole lilloise. Ça fait donc 18 mois que cette étude a commencé. Pour pas être trop longue, en gros, c'est une étude qui fait l'hypothèse que des personnes qui cumulent un parcours à la rue avec des troubles psychiques sévères et pour un certain nombre d'entre eux des addictions associées, le parcours habituel qui existe, hein, en France, mais aussi dans d'autres pays, qui consiste à franchir certaines étapes jusqu'à imaginer pouvoir habiter un logement ordinaire dans la ville, voilà, qui consisterait à accéder d'abord aux soins, faire ses papiers, arrêter par exemple de boire ou de se droguer. Hein, je parle d'un public qui a un grand parcours à la rue. On part du principe en fait que c'est beaucoup plus dur de franchir ces étapes-là pour arriver vers l'horizon qui serait le logement ordinaire. On essaye, en fait, on expérimente l'inverse, c'est-à-dire que les personnes qui rentrent dans cette étude, on expérimente pour eux le fait d'accéder très rapidement à un logement, normalement 6 semaines maximum, sans condition, c'est-à-dire que les personnes, même si elles n'ont pas de soins, pas de papier d'identité, il faut qu'elles aient des droits ouverts, ouvrables, des droits potentiels. En fait, elles rentrent d'abord dans leur logement, elles investissent leur logement et on table sur le fait, on fait l'hypothèse que le logement va être un levier pour aller mieux sur d'autres aspects de sa vie. Pas forcément d'ailleurs seulement sur les troubles, hein, de la santé mentale, mais sur ça peut être tous les aspects de la vie quotidienne. Voilà, on fait cette hypothèse-là et on l'expérimente pendant 24 mois pour 800 personnes, 200 par site que j'ai cité tout à l'heure en France. Voilà, on fait cette hypothèse-là et c'est un programme qui est hérité des États-Unis au départ et dont la philosophie principale est la philosophie du rétablissement, qui est donc un processus personnel qui ne s'apparente pas à la guérison mais à la reprise en main de sa vie, à la reconquête de l'espoir et enfin c'est tous ces termes qu'on a traduits d'empowerment, de recovery, mais l'idée c'est ça, l'idée c'est avoir une meilleure qualité de vie et avoir prise sur sa vie indépendamment de sa situation au regard des soins.
Très bien, merci, je pense qu'on vous invitera aux entonnoirs.
Moi j'avais juste volontiers une autre question, la première c'était savoir si ça avait été expérimenté dans un autre pays, mais vous y avez déjà répondu.
Dans pas mal de pays, d'abord aux États-Unis, ensuite au Canada, et il y a quelques pays en Europe qui se mettent à l'expérimenter, mais dans une moindre mesure, c'est des toutes petites expérimentations, alors qu'en France c'est la plus massive, j'ai envie de dire, en nombre.
Et vous pouvez déjà tirer des résultats
de... Pour l'instant non, statistiquement on aura des résultats à la fin de l'année 2013, pour l'instant on peut pas donner de résultats parce qu'effectivement comme on teste quelque chose mais dans un système qui est différent de celui du système du système américain ou canadien, on peut pas savoir à quelles conditions ça marche et surtout pour qui ça marche, puisque encore une fois on l'a dit tout à l'heure, les trajectoires des personnes concernées sont très disparates les problématiques aussi. Ils ont en commun d'avoir le même diagnostic et un parcours de rue, mais après on a une grande hétérogénéité des situations. Et du coup, c'est pas tant de savoir si ça marche de faire du logement d'abord avec un accompagnement intensif médico-social dédié, que de voir pour qui ça marche, à quelles conditions et qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement aménager ou transformer dans le système français.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci.
Bah ouais. Merci. À bientôt. Old man lying by the side of the road where the lorry's rolling by. Blue moon sinking from the weight of the load and the buildings scrape the sky. Cold wind ripping down the alley at dawn and the morning paper flies. Dead man lying by the side of the road with the daylight in his eyes. Don't let it bring you down. It's only castles burning. Find someone who's turning and you will come around. Blind man running through the light of the night with an answer in his hand. Come on down to the river of sight and you can really understand. Red lights flashing through the window in the rain. Can you hear the sirens mourn? White cane lying in a gutter in a lane and you're walking home alone. Don't let it bring you down. It's only castles burning. Find someone who's turning and you will come around. Don't let it bring you down. It's only castles burning. Find someone who's turning and you will come around. Let it bring you down. It's only castles burning. Find someone who's turning and you will come around.
C'est drôle parce que sur cette question éthique, on parle beaucoup de on a des politiques. Je voyais dans le programme, on a peu d'intervenants soignants. Donc visiblement, c'est certainement une question très politique, l'attention collective. Je m'interroge, je vous la pose.
Bah, déjà, d'une part, on est avant tout aussi des soignants, vu que je suis de profession infirmier. Donc, je pense que comme Laurent, je me suis engagé en politique sur des valeurs et sur des combats qui sont, à mon avis, à la fois, notamment, tous les combats de la santé publique, tous les combats d'égalité, d'accès aux soins. Et donc, d'une certaine manière, on est aussi soignants. Et puis, bon, en termes d'éthique, il y a tellement de mauvaises images qui sont données sur la politique en matière d'éthique. Pour une fois qu'on peut montrer que la politique réfléchit à l'éthique et que nous sommes des gens engagés sur des combats, sur des valeurs et notamment sur une question qui semble importante, c'est de se mobiliser localement pour refuser les discriminations, les gens qui sont j'allais dire, exclus de tout, de soins, de logement, de santé, de droits. Et donc, ça fait vraiment partie, je pense, la santé étant un enjeu important dans le bien-être dans une commune.
Alors, Monsieur Eric Corbeau, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vois que vous travaillez au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Oui. Et y a-t-il une politique qui va être mise en place par rapport à l'attention collective des personnes qui sont en souffrance psychique? Y a-t-il des grandes lignes dans la politique du Conseil régional?
Non, en quelques mots, d'abord la compétence santé n'est pas dans la compétence des régions, donc dans les collectivités régionales, donc c'est pas une compétence région. Mmh. On avait simplement la compétence de la prévention et tout ce qui concerne donc les parcours de prévention et tout ce qui concerne, je dirais, la mobilisation des milieux associatifs dans ce domaine. La région Nord-Pas-de-Calais est la seule région de France, à ma connaissance, qui ait pris la compétence santé. Pour une simple raison, c'est qu'on est une des régions qui avons les plus tristes records dans un certain nombre de domaines. Et c'est vrai que pour participer à votre émission, j'ai un peu lu et un peu travaillé et un peu regardé les enquêtes. Et c'est vrai que si on regarde la détresse sociale ou la réalité sociale du Nord-Pas-de-Calais, et souvent, je vais pas vous donner de chiffres, mais on la connaît tous, hein, notamment les chiffres du chômage viennent de tomber. Si on regarde les chiffres du Nord-Pas-de-Calais, ils sont encore un peu plus inquiétants. Mais si on met en parallèle de cette carte, notamment l'état social de la région, l'état précaire de la région, les souffrances sociales de la région. Et si on regarde aussi, y compris en termes de maladies mentales et de suicides, on est aussi une région qui, hélas, souffrant aussi, je dirais, globalement, d'une souffrance qui est à la fois sociale, économique et psychique. Et donc, d'une certaine manière, c'est une réalité. Alors, pour vous répondre directement, parce que je vais pas... Pour l'instant, nous n'avons pas de politique à proprement dit en direction, je dirais, en prévention pour agir sur cette question-là, parce que directement, nous avons pris le cancer comme étant le mal de la région Nord-Pas-de-Calais. Nous avons un plan anti-cancer, donc de tête, c'est 10 millions d'euros d'investissement, notamment au niveau des équipements, et 3 millions d'euros concernant la territorialisation, notamment maison de santé, tout ça. Et donc, on a pris le cancer. Mais je dirais que on a aussi, notamment, par exemple, tout ce qu'on fait au niveau de tout ce qui peut être les centres sociaux, tout ce que nous faisons sur les maisons de santé, je pense qu'on touche aussi à la santé des territoires. Et donc, d'une certaine manière, nous agissons aussi sur la question de la santé mentale.
Et on sait que la France est le premier pays au monde à être consommateur d'antidépresseurs. Et je pense que dans le Nord-Pas-de-Calais, les chiffres doivent être aussi alarmants. Pensez-vous pas qu'il y a un grand problème au niveau de la santé mentale dans notre région et en France Et pensez-vous pas qu'il est temps de faire quelque chose, surtout par rapport aux exclus?
Bon, comme je suis politique et qu'on est dans une radio et qu'il faut aussi réagir, je dirais que déjà, sur la question de la consommation des médicaments, déjà première chose, je fais partie de ceux qui pensons qu'il faut arrêter de stigmatiser et de culpabiliser les usagers sur leur consommation de médicaments. Parce que, y compris, on dit derrière ça, c'est le trou de la sécurité sociale, c'est tout ça. Bon, je dirais que les industries pharmaceutiques sont, à mon avis, beaucoup plus, faudrait plus toucher aux industries pharmaceutiques que de stigmatiser les gens qui prennent des médicaments ou des suppositoires ou quoi que ce soit. Donc déjà de ce point de vue-là, ça fait partie des choses que j'aime toujours rappeler. Mais sinon, sur le fond, je pense que la façon de travailler le bien-être d'une personne, et notamment pour faire diminuer, je dirais, sa consommation notamment de tout ce qui peut être, comme vous le dites, anxiolytique, tous ces traitements-là. Je pense qu'il y a besoin d'avoir une grande politique où on mette l'humain au cœur des choix et que on mette son développement. Et donc, je pense que notamment ça passe par la question du bien-être au travail, d'avoir un emploi, de pouvoir se loger dignement, de pouvoir se cultiver, vivre. Et à mon avis, on travaillerait sur des mesures très positives et de prévention. Je pense qu'on pourrait faire reculer tout ce qui peut être, je dirais, la consommation et les béquilles dont on a besoin pour pouvoir survivre ou accepter, je dirais, les difficultés de vivre.
Alors, je voulais savoir, qu'attendez-vous d'une soirée comme aujourd'hui, comme ce soir, de cette soirée
Bah, tout simplement,
il faut mettre de l'eau au moulin, il faut...
Bah, tout simplement, moi qui suis élu local et qui m'investis comme d'autres, hein, comme Laurent et comme d'autres, comme Marc qui arrivera tout à l'heure sur les questions de santé mentale, c'est déjà d'apprendre des choses ce soir, parce qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui savent et ceux qui écoutent, il y a aussi le fait que l'échange, les échanges d'expériences, vos points de vue, les points de vue des gens qui sont dans la salle, la mixité des expériences à la fois hospitalières, mais aussi locales, les expériences de territoire, moi j'attends beaucoup de la soirée ce soir, et pour tout vous dire, quand j'ai été invité à participer, j'ai regardé un peu le bouquin qui a écrit qui est à côté de moi sur la réflexion notamment sur l'éthique, sur la tout ça. Bon, j'avoue personnellement qui ai piloté un contrat territorial de santé, la question de la santé mentale est pas venue dans les priorités de ce contrat, alors que on a même été cité comme étant d'avoir vraiment mobilisé les associations, le territoire, les élus, les usagers, l'hôpital, et cette question-là est pas venue. Et c'est vrai qu'en ayant lu un petit peu et travaillé, je regrette, parce que évidemment aujourd'hui on se rend bien compte que cette problématique, non, il n'est pas trop tard parce qu'on vient juste de faire une journée santé mentale et ville, donc on a un peu déjà commencé à rattraper, mais cette problématique-là, elle a été simplement effleurée à travers l'estime de soi, qui est quand même une toute petite partie, et on se rend compte que derrière ça, la souffrance, entre guillemets, la santé mentale, on aurait dû, à mon avis, la pointer peut-être de façon plus forte, et je vais relire le diagnostic pour voir là où ça a été exprimé, et là on l'a peut-être pas... forcément, dans les paroles d'associations de territoire, on n'a peut-être pas, souligné suffisamment.
Et vous pensez qu'il y a un rapprochement des professions médicales, paramédicales et politiques, etc., là, actuellement, pour justement avoir une orientation la meilleure possible, ce clivage dont on parlait tout à l'heure, c'est chacun travaille de son côté. Est-ce qu'il y a un rapport?
Pour moi, il n'y a pas de clivage. Alors, cette question-là, on me l'a jamais posée, donc j'essaie de donner mon point de vue. Pour moi, il n'y a pas de clivage, parce que d'abord, d'une part, il y a toujours eu beaucoup de professionnels médicaux et paramédicaux qui ont été investis, notamment dans le ministère de la Santé, hein, de tête. Il y a quand même pas mal de médecins qui sont intervenus, qui ont été élus et qui sont élus, y compris dans le domaine de la santé. Je pense que la question, c'est pas trop le rapport entre les médecins et les élus, je pense que ce serait plutôt aussi un rapport entre les citoyens et leur santé et la démocratisation un peu de ce secteur pour que, je dirais, les réformes et puis les priorités de santé soient beaucoup plus définies, à la fois évidemment avec le politique qui a cette responsabilité-là dans la société, mais aussi je pense avec évidemment les professionnels. Mais je pense qu'il y a une des grosses questions pour moi, c'est la place des usagers, leur rôle, dans tout ce qui peut être leur dignité, leur place, leur choix, leur parcours de santé. Et moi, je pense que j'ai toujours regretté que, notamment, bon, on est quand même dans un système de santé qui a été très longtemps confisqué par les médecins, et j'ai rien contre les médecins. En rigolant, je disais toujours ils écrivent tellement mal, c'est pas parce qu'ils écrivent tous mal, c'est simplement parce que ça leur permet de qu'on puisse pas les relire et qu'ils se lisent entre eux. Et je pense qu'il faut redonner une place beaucoup plus importante aux usagers dans la santé. Et je pense qu'en même temps, quand on est un homme politique ou une femme politique, il faut aussi concevoir qu'on n'est pas là pour décider ou pour prendre des choix à la place des gens, mais plutôt de les aider les citoyens à prendre eux-mêmes leurs décisions et leurs affaires en main. Et donc c'est un peu ça, je crois, qui nous guide, notamment lorsqu'on est de gauche.
Et vous avez été infirmier psy ou infirmier...
Pour rigoler, Robert Rue était infirmier psy au Parti communiste. Moi, je suis infirmier, donc on n'a pas eu la même même parcours. Mais c'était Robert Rue qui était infirmier psy. Ah, ça parce que on me posait la question déjà tout à l'heure. Non, je suis infirmier de profession et j'ai regretté. Je me suis mobilisé à l'époque parce que j'étais au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière quand on a supprimé notamment le diplôme d'infirmier psychiatrique et les écoles d'infirmiers psychiatriques, parce que d'une certaine manière, lorsqu'on supprime une école et un diplôme, souvent derrière ça, on peut avoir quand même des risques importants de disparition ou d'effacement d'une spécialité ou d'un champ, et j'avais fait partie de ceux qui s'étaient mobilisés contre la suppression du diplôme, et voire même qu'on me demandait à l'époque, je pense, la reconnaissance de ce diplôme au même niveau que les autres diplômes infirmiers qui étaient extrêmement valorisés, comme IAD, infirmier anesthésiste, tout ça, alors qu'infirmier psychiatrique, c'est quand même, à mon avis, une profession extrêmement valorisante et importante.
En tout cas, merci. Je pense qu'on va en terminer là. D'accord. Puisque, en tout cas, merci beaucoup.
Je dis merci sans bouger la tête.
Oui, oui.
Alors maintenant, nous allons discuter. Alors, à quoi vous fait penser le thème « Quelle éthique pour une attention collective à la personne ?» Je vais peut-être expliquer en quelques mots. En fait, il faut savoir se demander quelle morale pour que l'on fasse plus attention aux personnes qui souffrent de problèmes psychiques. Pensez-vous que l'on qu'il y a une grande attention vis-à-vis des personnes qui ont des problèmes psychiques, des problèmes mentaux dans notre société? Est-ce que vous pensez qu'on s'en occupe bien? Est-ce qu'il y a de l'écoute? Est-ce qu'il y a du suivi, etc.?
Moi, je vais formuler le bateau. Ça dépend de chaque individu. Ça dépend dans quel état d'esprit. Parce qu'à des moments, on a besoin d'énormément d'écoute. À des moments, beaucoup moins. Donc c'est fluctuant, quoi. Voilà, et la situation, c'est mouvement, c'est la vie. C'est à des moments il y a des nuages sombres, à des moments il y a du ciel bleu. Et voilà. Et moi, ce que je reproche beaucoup au discours, c'est moi ce que j'ai peur de l'éthique, c'est que ça plane et puis qu'il n'y a rien dans le concret. Donc c'est ma peur, c'est ma grande peur. Mais heureusement, il y a des gens dans l'ombre qui agissent bien. Voilà, c'est tout.
Bah moi, je voulais rendre honneur aux infirmiers qui sont vraiment sur le terrain, qui disposent d'une grande écoute et qui nous suivent. Dans nos péripéties, quoi, dans nos problèmes quotidiens, dans notre maladie, etc. Je voudrais leur rendre hommage, donc, aux infirmiers, aux psychiatres, et aux assistantes sociales du CMP, qui font un gros travail. Roger Lucien?
Bonjour à tous. Moi, je voulais dire que nous vivons dans une société très matérialiste, et par ce fait individualiste. Donc, ce qui fait que les personnes, lorsqu'elles déclenche pour la première fois un trouble psychique, elles sont seules, si bien que la première fois le diagnostic n'est pas fait, si bien que la personne peut se retrouver à un moment donné de sa vie exclue. Et puis j'estime que bon, la société devrait être plus présente dans la vie de tout le monde.
Marie.
Ben moi, en tant qu'infirmière, je dirais que ben c'est peut-être. D'abord, je te remercie de tes remerciements. On va pas en finir, mais ça s'arrête à la santé. Je veux dire au ministère de la santé. Après, il y a parfois quelques missions qui existent d'un ministère à l'autre, pas trop, mais il y en existe. Mais je trouve justement que, pour reprendre Monsieur El Ghozi de, comme il disait tout à l'heure, on a trop tendance à travailler dans la verticalité, c'est-à-dire pour soi, pour son ministère, pour son organisme, pour son asso, et c'est pas assez dans l'horizontalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'échanges, pas assez de... Je veux dire, bon, par exemple, ce que je révélais la fois dernière, c'est que dans un commissariat, on va pas trouver de personnes compétentes suffisamment en matière de psychiatrie ou en matière de psychologie qui puissent appréhender à un moment donné... bon, ou soupçonner un problème quelconque ou qui puisse donner un peu de soutien. Je sais que les flics sont dans le... Bon, plutôt dans l'agir, quoi, je veux dire.
Dans l'accompagnement des personnes qui souffrent.
Non, pas les flics sont pas dans l'accompagnement. Non, hein.
Mais parfois, excuse-moi, peut-être je fais erreur, mais parfois ils accompagnent du commissariat jusqu'à l'hôpital quand il y a une crise qui se déclenche.
Oui, mais alors voilà. Tu les verras souvent désemparés. Voilà. Ils savent pas trop comment aborder la personne, comment communiquer. Et moi, je me dis que bon, bah là, une mission transversale, ce serait bien. Nous c'est pareil. Moi je parlais d'une expérience professionnelle. J'ai eu la chance de pouvoir faire pendant quelques temps régisseur, c'est-à-dire que je m'occupais à donner de l'argent aux patients dans le sein de l'hôpital. Ça m'a permis de constater que il y avait des dialogues, enfin des langues, allez on va dire ça comme ça, des langues différentes, alors qu'on parlait d'une même personne. Je donnais les sous, j'intervenais auprès des tuteurs, de tous les représentants, les mandataires qui étaient de différents patients, et c'est sûr, on parlait de la même personne, on voulait la même chose, le même bien pour la personne. On parlait pas la même langue et on a eu pendant un bon moment, j'ai eu du mal à comprendre parfois ce que disait l'administratif, parce que c'est beaucoup plus administratif et tout ça. Pourquoi on me répondait non, il peut pas avoir de sous. Alors je disais oui, mais enfin il y en a sur son compte. Oui, mais bon, il y a d'autres choses derrière qu'il faut apprendre, comprendre. Et c'est vrai que si on fréquente pas les gestionnaires de biens, si on fréquente pas d'autres administrations, on comprend pas, on sait pas comment ça se fait. Et nous, on se dit mais il y en a marre qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues. Et voilà. Et eux, inversement, ils nous envoyaient dire vous voulez toujours tout de suite. Non, on voulait pas tout de suite, mais on comprenait que le patient avait des difficultés d'attendre parce que la maladie ne s'y prêtait pas. Donc voilà. Donc en passant d'un côté comme d'un autre. J'ai trouvé que c'était une chouette expérience d'avoir pu le faire, parce que c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait il y avait un besoin. Bon, après il y a d'autres administrations qui font que on a un besoin, la CAF, la Sécu, je peux comprendre qu'il y a des moments ils ont envie de répondre n'importe comment ou sèchement avec quelqu'un qui a plus de difficultés à comprendre ou qui appréhende pas tout parce que c'est plus compliqué pour lui, parce que c'est pas dans son monde. Bon, je dis pas qu'à chaque fois il faudrait un infirmier derrière un guichet, c'est pas vrai, mais ça pourrait aider. Il y aurait des missions transversales, des formations aussi. On n'est pas obligé d'avoir une personne, on peut peut-être avoir des gens qui sont peut-être intéressés à se former pour ce genre de choses.
Hein, Laurent. Voilà. Moi, je tiens à être négatif parce que les gens qui font un épisode aigu schizophrénique ou autre ou bipolaire, il faut un accompagnement, un soutien, un passer aux soins et tout. Mais le problème, c'est que il y a des gens qui sont condamnés à rester dans les hôpitaux toute leur vie. C'est scandaleux parce que il faudrait leur laisser une chance de pouvoir profiter de la vie et profiter des contacts avec les autres, parce que en plus les malades entre eux, c'est pas toujours la joie et tout. Enfin, comment le dire ça, c'est scandaleux, hein. Mais moi je pense qu'il faudrait
plus d'attention collective plus par rapport à ces personnes,
plus de liberté, les milieux thérapeutiques, les appartements thérapeutiques, un suivi.
Oui, mais si elles sont à l'hôpital, c'est qu'elles doivent être soignées, c'est qu'elles
les
gens qui délirent et qui sont obligés de rester à l'hôpital toute leur vie, je veux dire, c'est la vie est mal faite, hein.
C'est pas forcément la loi, c'est que quand on fait un projet de soins, parfois on rencontre quelques difficultés parce que la personne, même si elle est relativement stabilisée, elle n'est pas encore en phase adéquate avec la vie à l'extérieur telle qu'elle est. Oui, effectivement, peut-être que s'il y avait d'autres passerelles, ça serait peut-être plus facile. C'est possible. J'en sais rien, j'ai pas réponse à tout. Et c'est pas forcément scandaleux. Il y a des gens qui ont des difficultés à ressortir d'une institution parce que ils ont connu que ça de leur vie, par exemple. Maintenant, ça demande peut-être parfois plus d'étayage, j'en sais rien.
Gilbert.
Alors moi, j'ai pas eu des exclusions. Supposons qu'une dame, un voisin, il est désagréable avec moi. J'avais oublié ma clé. Je suis un voisin, il descend, il veut me frapper parce que je l'avais réveillé. Eh ben, je pense que cet ami est doux. Je trouve des qualités imaginaires aux gens. Et les gens m'acceptent comme ça. Après, je dis, ça me fait rien, ça fait absolument rien. Je dis, t'en m'en vote quand on est malhonnête avec moi. Et après, je pense à autre chose. Et comme ça, je suis accepté. Je trouve des qualités imaginaires à des fois à des personnes qui n'en ont pas. Et c'est comme ça que ça va.
Roger Lucien.
Je voulais rajouter quelque chose qui, selon moi, est fort important. On devrait plus parler des maladies psychiques. Parce que je me souviens, je vais parler de mon cas personnel. Lorsque j'ai appris à ma famille que je faisais les démarches pour être reconnu travailleur handicapé, j'ai été critiqué. Parce qu'on m'a dit que pourquoi tu fais les démarches pour être reconnu travailleur handicapé, tu seras reconnu handicapé mental. Cela ne te concerne pas. Pour moi, ça voulait dire cela ne te concerne en rien. Donc tu n'as pas à faire cette démarche. Donc tu fais erreur. Donc moi je pense qu'on devrait plus parler de ces maladies là aux gens pour qu'ils soient plus informés.
Brahim, moi
j'ai pas ça l'exclusion parce que quand t'as des problèmes de chez soi parce que vous êtes, les médecins ne vous aident pas. De toute façon c'est pour avoir la mairie peut-être va nous aider un coup de main pour trouver du boulot ou soit quelque chose. Mais une exclusion d'handicapé que tu parles tout à l'heure, Roger Lucien, eh ben, exclusion, ça veut dire, comme quelqu'un ne travaille pas, et qu'il y a des problèmes de famille. Voilà.
Bruno.
Moi, ce qui me fait dire ça en rapport à l'actualité, c'est pour une personne qui a une faiblesse psychologique. Un trouble psychique ou autre, qui pédale la choucroute, excusez-moi l'expression. Il faut qu'elle trouve des repères. Et heureusement qu'elle a des repères individuels auprès de proches, auprès de gens, de la citoyenneté qu'elle rencontre autour d'elle, la famille, peu importe, ou les psys. Parce que justement, on est dans une société, maintenant, où les repères officiels, ils se cassent la gueule, quoi. Donc, c'est pas facile, c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui, justement, parce que justement, les repères, il s'agit de les retrouver.
Marie?
Oui, moi, je pense que, bon, là, on parle essentiellement de psy. Parce que bon, en fait, on est tous concernés là autour de la table justement par ces problèmes de psy. Mais je pense que quel que soit le handicap, on se retrouve de toute façon à un moment donné à une barrière. Imaginez quelqu'un en fauteuil roulant qui va à la poste et qui se retrouve avec le comptoir au niveau du front. C'est pas évident, quoi, je veux dire. Quelqu'un qui se déplace en béquille devant une porte les portes tournantes, là, style grand magasin, énormément de mal à prendre la porte. Hein. Il y a plein de petits trucs comme ça auxquels on pense pas. L'intérêt... Alors, maintenant, ça commence à s'ouvrir un petit peu, mais l'intérêt d'aller dans un musée si on peut pas toucher alors qu'on est aveugle. Ben, je vois pas trop l'utilité. S'il y a pas de programme d'abord s'il y a pas je dirais pas que seulement une écoute, mais un regard sur celui qui a des difficultés qu'elles soient. Effectivement, moi je sais pas si je suis conservateur de musée, je vais me dire ouais d'accord, tout le monde voit. Bah non, ceux qui sont aveugles, ils voient pas. Comment je peux faire? Ceux qui sont sourds, si je mets un programme avec de l'audio, ceux qui sont sourds, ils verront pas. Alors celui qui va arriver, qui est aveugle et sourd, il fait quoi? Bah il regarde, il va pas au musée. Toi, voilà. Et je pense que c'est ça quand je dis qu'il faut que ce soit du travail horizontal.
Eh bien, c'était le mot de la fin. Bien, je vous remercie à tous pour cette discussion et à très bientôt. Au revoir.
Ciao, au revoir. À plus tard. Bonne semaine. Au revoir.
Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Parce que c'est des entonnoirs, parce qu'il donne plus fou dans la tête. Et ça gratte des pots sur ma tête. Et je viens plus fou, c'est ça, des entonnoirs.